Chali m'était conté. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Avant de progresser un peu plus dans l'histoire de Chali, juste avant la Révolution française, un petit résumé de l'émission précédente. Vous devez vous souvenir donc que nous avions évoqué la personnalité quelque peu équivoque du comte de Clermont, à la fois un homme d'église, mais aussi un chef militaire, et je dirais un homme de culture, et surtout aussi un libertin. Enfin, un mélange assez explosif en quelque sorte, mais un mélange qui a eu pour les moines de Chali des conséquences assez funestes. On le verra d'ailleurs dans le détail bientôt. Simplement pour résumer, le comte de Clermont, ayant reçu très jeune l'abbaye de Chali, il n'est loin d'être majeur, décide néanmoins quelques années plus tard de construire un nouveau bâtiment pour remplacer les anciens. Et les anciens, c'est-à-dire les bâtiments médiévaux. Alors bien sûr, quand on casse du médiéval, il y a quand même des protestations, tout le monde n'est pas d'accord. Il y avait déjà une espèce de protection du patrimoine qui s'était mise en place, et nous savons aussi très bien que parfois nous sentons obligés de défendre le patrimoine local qui peut être parfois soumis aux assauts de la pioche pour favoriser tel ou tel investissement communal ou tel lotissement. Bien, donc malgré tout, les choses vont se faire et un grand bâtiment abbatial va s'élever d'après les plans de Jean Aubert, ce même, je vous rappelle, qui avait initié les grandes écuries de Chantilly. C'était aussi l'architecte de la mère du comte de Clermont. On reste en famille, en quelque sorte. Et ce grand bâtiment nouveau, qu'on appellera plus tard le château, va se compléter par deux ailes qui rejoignent l'église abbatiale. De l'église abbatiale, nous ne connaissons que quelques détails, à savoir d'une part le compte-rendu d'une visite qui a été effectuée en 1723 pour faire la liste des travaux à faire pour entretenir les bâtiments encore en place. Et de cette liste, on va ensuite en déduire un certain nombre de modifications dans l'église elle-même. Alors, à savoir, dans un premier temps, donc, la décoration et l'aménagement du mobilier liturgique. Rappelez-vous, je vous avais recommandé, quand l'occasion se présentera, d'aller visiter l'église de Baron, hein, entre Nanteuil et Senlis, que vous devez connaître. Et dans cette église de Baron, vous allez retrouver les stalles en chêne des frères Slotz, je vous le rappelle, qui étaient les grands ébénistes de Versailles. Ces stalles qui vont être rachetées, pense-t-on, par la fabrique de Baron. La fabrique, c'est tout simplement un conseil qui s'occupe des affaires de l'Église lors de la Révolution. On pense que c'est à cette occasion de la grande braderie, en quelque sorte, révolutionnaire, que les stalles vont être achetées. Ainsi qu'une grande statue de la Vierge qui se trouve intégrée dans ces stalles. Et sur le côté, sur le bas-côté, je dirais, de l'église de Baron, vous trouverez une église en pierre du XIVe siècle, une superbe Vierge à l'enfant qui, elle aussi, mérite toute notre attention. Par ailleurs, on va retrouver dans la cathédrale de Senlis, d'une part, l'autel en tombeau, c'est sa forme qui nous le fait nommer ainsi, de l'église de Chali, qui est toujours présent dans la cathédrale, il vous suffit de rentrer, c'est le vieil autel qui précède le nouvel autel, mais aussi des tableaux dont l'inventaire à l'intérieur de cette cathédrale va nous donner quelques précisions. Bien, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais vous voyez qu'il y a quand même là quelques éléments qui nous restent de cette décoration, d'autant plus que, et nous allons le voir dans d'autres émissions, pendant la Révolution, ce sont les habitants de la commune de Fontaine-Chali qui sont responsables de la sécurité des bâtiments abbatiaux. Et ils font le travail d'une façon remarquable. J'aurai l'occasion d'ailleurs de reprendre un petit peu ce travail tout à fait remarquable. Je me répète, parce que c'est effectivement un document essentiel que j'ai eu le bonheur de retrouver au bas d'un bahut de la bibliothèque de Fontaine-Chali. Rassurez-vous, ils sont maintenant déposés aux archives départementales de l'Oise. Et dans ce document, on trouve la description à deux reprises des bâtiments, mais aussi de l'intérieur des bâtiments de l'abbaye de Chaly, donc de l'église. On a donc une description précise des chapelles, du mobilier, des tableaux qui sont accrochés dans le chœur, dans la nef, dans les chapelles, etc. Donc on peut dire que cette église va être rénovée et très rapidement consacrée, hein, comme il doit se faire, par l'évêque de Senlis autour de 1733. Parmi les tableaux, il y a ceux de quelques grands peintres quand même qui nous sont venus jusqu'à nous. On pense à Nicolas Bertin, on pense à Gabriel Revel et on pense à Jean Restoux, père et fils, qui constituent les grands peintres de cette période, c'est-à-dire les grands peintres officiels, je dirais, de cette fin du XVIIIe siècle. Et c'est eux qui vont compléter la décoration de l'église. On va même ajouter des grandes orgues qui se trouvaient au-dessus de la porte d'entrée. Quant aux bâtiments abbatiaux médiévaux qui restent, évidemment, ils vont être tous démolis, ou presque. Alors, ces travaux sont estimés à 330 000 livres. Ben, disons que, comme d'habitude, c'est un devis, en quelque sorte, c'est une prévision, et comme dans tous les gros travaux, bien, l'habitude était prise depuis longtemps de dépasser, évidemment, les prévisions. Et on peut estimer à 1 200 000 livres le coût réel des nouveaux bâtiments abbatiaux. À la mort du comte de Clermont, un autre abbé commendataire va être nommé. Il y a une période de vacances qui va durer jusqu'en 1779. Et c'est simplement à cette date que Jean de Dieu Raymond de Boisgelin de Cussé, archevêque d'Aix-en-Provence, qui obtient la commande de Chaly jusqu'en 1790, c'est-à-dire au moment des biens nationaux, à savoir que les biens de l'Église deviennent des biens de la nation et seront par la suite vendus. Ce nouvel abbé est un homme tout à fait intéressant dans la mesure où c'est un homme très cultivé, c'est un homme de lettres, habile administrateur. On va le voir voter l'abolition des privilèges, qui est quand même assez exceptionnel de la part d'un archevêque, et il se révèle, malgré tout, comme un ardent défenseur du droit de propriété ecclésiastique. Et puis, il va s'opposer à la Révolution dans la mesure où il est contre la constitution civile du clergé, qui fait des membres du clergé, en quelque sorte, des fonctionnaires. Ce n'est pas pour rien non plus qu'il vient à Chaly. Hein. On peut noter qu'au moment de la Révolution, c'est-à-dire en 89, il reçoit annuellement de l'abbaye la somme de 50 000 livres, ce qui est tout à fait exceptionnel là encore. Et on est dans la tradition de ces abbés commendataires qui pillent, le mot je pense peut être quand même utilisé, depuis le XVIe siècle, qui pillent l'abbaye de Chaly. Car l'abbaye de Chaly n'a pas eu le droit, comme la plupart des abbayes, malheureusement, cette abbaye a été un peu isolée, n'a pas eu le droit à un concordat, c'est-à-dire à une signature, un accord, si vous voulez, entre l'abbé commendataire et les moines. Dans la plupart du temps, on a donc des concordats qui donnent deux tiers à l'abbé commendataire, un tiers aux moines, mais un des tiers de l'abbé commendataire doit être utilisé pour l'entretien des bâtiments. On verra que cela posera de nombreux problèmes à Chaly, qui demandera un concordat, mais très tardivement, dans la première moitié seulement du 18e, ils vont signer ce concordat qui ne sera pas forcément une pleine réussite. Alors revenons un peu sur ce nouveau bâtiment abbatial, dont seule la partie septentrionale sera construite, et que tout le monde connaît maintenant, puisqu'on l'appelle le château-musée, de Chaly, hein, vous voyez ce long bâtiment qui barre la vallée de la Launette et qui est dans un style très, très classique, si j'ose dire, qui correspond bien à l'architecture de cette période. André va nous lire un petit peu l'opinion qu'on en avait à propos donc de ce projet. Voilà ce qu'on disait.
C'est un projet ambitieux car on se propose de bâtir un nouveau cloître de plan rectangulaire, long de 14 travées et large de 7, dont la façade nord, tournée vers les jardins en parterre, est encastrée de deux ailes saillantes. L'ensemble doit être traité dans un style sobre, un style classique avec arcade en plein cintre, fenêtres cernées de chambres en plat, avant-corps striés de bossage plat et comble d'ardoise. Mais les fonds manquent dès le début et la mort de l'architecte en 1741 retarde peut-être encore l'ouverture du chantier. Le corps de logis du Nord, qui commence à sortir de terre en 1752, présente deux hautes galeries. Celle du rez-de-chaussée, voûtée, dessert les espaces communs, voûtée également, et celle de l'étage, les cellules des moines. À l'est comme à l'ouest, en direction de l'église, l'édifice devait être complété par deux ailes rejoignant l'abbatiale et fermant le cloître. Réalisé dans le même temps, l'esplanade d'entrée est pourvue dans les années 1770 de deux pavillons encadrant la grille que nous connaissons tous.
Alors, vous retrouvez bien la description du bâtiment telle qu'on peut la visiter lorsqu'on se promène parmi les collections Jacques Marandré du musée de Chaly. Une petite note quand même, la galerie donc, qui est la galerie du cloître. Quand vous rentrez dans le musée, donc sur la droite, vous avez cette longue galerie qui n'était pas fermée par des fenêtres comme elle l'est maintenant. Hein, c'était une succession d'arcades, les arcades du cloître. Eh bien, cette galerie qui nous donne une dimension, à ce moment-là, d'un des côtés du cloître, est tout à fait extraordinaire. Elle fait 76 mètres de long. 76 mètres, pour la petite histoire, c'est la longueur de la galerie des glaces de Versailles. Certes, soyons modestes, on n'en a pas la même largeur. Mais vous voyez que c'est un bâtiment tout à fait somptueux. Et somptuaire, c'est-à-dire des dépenses peut-être un peu exagérées par rapport aux revenus de l'abbaye. Alors, je me suis penché un petit peu sur cette histoire de faillite. L'histoire traditionnelle nous dit que les emprunts que firent les moines de Chaly vont les ruiner. Ils vont les ruiner parce que le projet est trop ambitieux par rapport aux revenus de l'abbaye de Chaly. Alors, je ferai deux remarques. La première, c'est que la dépense concernant le bâtiment abbatial n'apparaît pas dans les comptes. Et donc, les emprunts ont été réalisés, non pas pour construire le nouveau bâtiment, mais tout simplement pour réparer l'abbaye. Mais ça veut dire aussi non seulement réparer les bâtiments qui sont à l'intérieur de la grande clôture actuelle, mais aussi tous les bâtiments agricoles, tous les bâtiments de ces granges qui sont de ces fermes, on dirait bien sûr de nos jours, qui dépassent le nombre de 20. Imaginez la quantité de travaux qu'il faut effectuer parce qu'on n'a rien fait depuis un siècle et demi. Tout s'écroule plus ou moins. On doit refaire toutes les couvertures. Et nous avons donc un devis qui est daté de 1783 et qui établit la liste de toutes les réparations urgentes à faire. Alors, les moines ne se soucient pas du tout du nouveau bâtiment, je le répète. Se rendre compte qu'on a là une somme considérable, comment faire? Eh bien, ils vont emprunter. Ils vont faire ce qu'on fait, évidemment, les civils en général. Ils vont les taper à la porte des banquiers et demander de l'argent. Et les banquiers vont leur demander à leur tour, oui, mais prouvez-moi que vous êtes capable de rembourser, en quelque sorte. Et les moines de dire, nous avons une caution tout à fait remarquable, c'est ce qu'on appelle la réserve. C'est-à-dire que l'abbé commendataire, le comte de Clermont, a mis à notre disposition cette partie importante de la forêt pour servir de garantie. Il nous l'a laissé, en quelque sorte, pour se servir de garantie aux emprunts. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, si j'ose dire. Et les travaux commencent. Il faut même encore emprunter un peu d'argent par la suite, parce que les devis sont largement dépassés à leur tour. Mais arrive ce qui n'aurait pas dû arriver, c'est que le comte de Clermont revient sur sa parole, récupère la réserve. Je vous rappelle que la forêt à cette époque, c'est le Fornox de l'époque, c'est là où la vieille garde ses lingots, en quelque sorte, c'est la garantie financière la plus importante possible. Eh bien, le comte de Clermont revient sur sa parole. Et voilà nos moines qui se retrouvent complètement démunis. Et bien sûr, les banquiers qui ont prêté l'argent réclament cet argent. Comment faire? Et on va voir que les moines vont être réduits tout simplement à vendre une partie de leur richesse, à vendre une partie de leur mobilier, à vendre qu'ils soient liturgiques ou pas d'ailleurs. Hein. Et on va voir petit à petit l'abbaye se vider petit à petit à la faveur de deux saisies. On en parle souvent d'une, mais en réalité, il y en a eu deux saisies réelles. C'est-à-dire qu'on les saisit comme un bien ayant appartenu à des laïcs. Et là, c'est pas tout à fait normal, dans les habitudes, évidemment, puisque autant c'est normal dans l'activité traditionnelle qu'on ait effectivement recours à des emprunts et à une faillite éventuelle si on n'est pas capable de le rembourser, mais ça n'arrive pas dans le domaine religieux qui est quand même à part. Et le prieur de Chaline se fait le chantre de cette exaction en disant les seuls qui ont le droit à la limite de réclamer de l'argent, ce sont les ouvriers qui n'ont pas été payés, les ouvriers laïcs qui n'ont pas été payés. Eux sont dans un autre système. Mais pour l'abbaye elle-même, il n'en est pas question. Alors, comment connaît-on toute cette aventure? Eh bien, il y a un prieur. Alors, je vous rappelle que dans le système cistercien, chaque abbaye a à sa tête un abbé. Et là, en l'occurrence, un abbé commendataire, on ne peut pas dire que ce soit une réussite. Hein. Et comme l'abbé n'est jamais là, évidemment, il est remplacé par un lieutenant, hein, tenant-lieu, voilà ce que ça veut dire, qu'on appelle le prieur, qui existait déjà du temps, au temps médiévaux, bien sûr. Et parmi ces prieurs, il y en a un qui s'appelle Christophe Ferroux. Et Christophe Ferroux est l'auteur de deux ouvrages tout à fait importants qui sont depuis longtemps, je crois, passés sous silence. Il est parfois difficile de retrouver. Et non seulement il évoque évidemment Chaly, dont il a en partie la responsabilité, mais aussi il parle de ces grandes difficultés qu'on a à pouvoir vivre dans une abbaye qui est pillée par un abbé commendataire. Voilà ce qu'il dit.
Les religieux, pour n'être pas écrasés sous leurs toits antiques, firent avec leur abbé un concordat par lequel ils se chargèrent de toutes les reconstructions, moyennant l'abandon qu'il leur fit des bois de réserve. La nécessité d'accélérer les travaux leur fit mettre des ouvriers partout. Et leurs premières ressources étant épuisées, ils eurent recours aux emprunts. Ils empruntèrent avec d'autant plus de confiance qu'ils comptaient sur le produit des réserves pour se libérer. Mais leur abbé, contre la foi de ses engagements, leur enleva ces mêmes bois qu'il leur avait cédés. Alors de nouveaux emprunts forcés par les premiers formèrent de loin l'orage qui vient d'éclater sur cette maison. Et l'arrêt qu'elle subit aujourd'hui entraîne non seulement la ruine particulière d'un des plus beaux monuments de la piété de nos rois, mais il porte un coup fatal à la propriété ecclésiastique qu'il semble assimiler par la saisie réelle à la propriété laïque.
Voilà un témoignage tout à fait intéressant, dans la mesure où on est là devant l'analyse contemporaine de ce prieur, de Christophe Ferroux, qui nous explique ce qui s'est passé dans la réalité. On n'est plus dans une espèce d'histoire fiction, les pauvres moines qui sont ruinés parce que l'abbé a fait construire un nouveau bâtiment. Certes, il y a sûrement des relations entre les deux, mais ça n'est pas en tous les cas ce qui est arrivé dans la réalité. En d'autres termes, comme tous les banquiers, je vous rappelle, ceux-ci avaient exigé des garanties, ces garanties n'existant plus, évidemment. On peut effectivement intervenir et demander la restitution de ces emprunts sous la forme de la vente, d'une faillite en quelque sorte. Mais mettre une abbaye en faillite, ça ne se conçoit pas. Alors, ce Christophe Ferroux fait, on l'appellera aussi Don Ferroux, s'inscrit dans une longue tradition des supérieurs de l'abbaye de Chaly qui, depuis le Moyen-Âge, sont docteurs en théologie. J'insiste aussi sur la formation de ces prieurs, puisque ces docteurs en théologie, eh bien, sont simplement les héritiers de ceux du Moyen-Âge. Une petite parenthèse, j'ai retrouvé récemment un travail qui a été effectué par des membres de l'IRHT, l'Institut de Recherche d'Histoire des Textes. Ce sont des gens qui sont spécialisés dans les parchemins médiévaux. Et deux chercheuses, et je pense à Madame Stirnman par exemple, ont travaillé sur les parchemins de Shelley. Et lorsqu'on voit cette liste tout à fait extraordinaire, on s'aperçoit qu'on est en présence évidemment de lecteurs qui sont plus dignes de l'université que d'aller cultiver dans le pré d'à côté. Autrement dit, depuis le Moyen-Âge, l'abbaye de Shelley est un centre culturel de première importance. Bon, il ne faut pas chercher loin, on est proche de Paris. Et donc, les abbés prenaient leurs vacances, en quelque sorte, à Shelley, à la campagne. Et cette tradition va perdurer avec la nomination, en général, je ne parle pas des abbés, qui, eux, étaient avant tout des hommes intéressés par l'argent, mais des prieurs ou de certains moines qui sont avant tout des universitaires, des docteurs en théologie pour la plupart, et on est quand même dans une abbaye, il ne faut pas l'oublier. Le voilà, ce fameux Don Frérot, confronté au problème de la dette. Et loin de se plaindre, de gémir et de se rouler par terre, en quelque sorte, il fait des propositions. Pour le financement de la dette, il en fait des très précises, mais aussi pour accroître les revenus de l'abbaye. Alors, il a ce qu'on appelle un discours pro domo sua, c'est-à-dire qu'il défend sa maison, hein, lorsqu'il part de Shelley. Mais il se débrouille quand même parce qu'il est en danger. Il attaque l'abbé commendataire. Donc, il le fait avec beaucoup de souplesse. Hein. Malgré la diatribe que André nous a lue, il dit qu'il n'a rien contre les abbés commendataires. Ben, voyons. Oui, les prieurs vivaient difficilement. Je n'ai pas le temps d'en parler. Mais l'organisation cistercienne telle qu'on la conçoit depuis Saint-Bernard, hein, depuis 1098, pour vous donner une date, eh bien, très rapidement, elle s'est dégradée. Petit à petit, les moines ont fait un peu ce qu'ils voulaient, et surtout pendant la commande. Qui est-ce qui nommait le prieur? Eh bien, c'était tout simplement le grand abbé, le grand chef des cisterciens, qui est l'abbé de Citeaux, aidé par quatre autres abbés qui correspondent aux abbayes sœurs, les quatre grandes filles de Citeaux, on les appelle, Clairvaux, La Ferté, Pontigny et Morimont. Mais ces quatre abbés, très rapidement, au cours des siècles, vont devenir des abbés à leur tour un peu prévaricateurs, c'est-à-dire qu'ils vont penser que les abbayes qui sont sous leurs ordres sont quelque part un peu leur propriété. Et c'est eux qui décident qui sera ou qui ne sera pas prieur. Alors, le prieur, donc, je pense à Don Frérot, est nommé, probablement par ses grandes qualités intellectuelles. Il est nommé dans la mouvance cistercienne. On ne va pas chercher ailleurs, hein, les prieurs. On reste dans la mouvance cistercienne. Il était avant à Fontaine-Jean, une dépendance, en quelque sorte, des abbayes cisterciennes. Et il va être nommé. Mais il est fragile. Pourquoi? D'une part, on peut le révoquer. C'est-à-dire les grands chefs là-haut, à Citeaux, peuvent le révoquer. Mais aussi, il se peut que les moines n'apprécient pas du tout les décisions du nouveau prieur, se révoltent et demandent, évidemment, son changement. Donc, on comprend pourquoi, dans ces grandes abbayes, au XVIIe, au XVIIIe, eh bien, on n'arrive pas à conserver, évidemment, un minimum de tradition cistercienne quant à la piété, quant au prière quotidienne, et pour un oui et pour un non, on va se révolter. On va se révolter dans l'abbaye, on va se révolter aussi en dehors de l'abbaye, je pense bien sûr aux frères converts. J'ai fait là une longue parenthèse, mais nous reviendrons bientôt sur les qualités de ce prieur exceptionnel dans une prochaine émission.
C'était « Si Shelley m'était compté » avec Jean-Marc Vasseur, attaché culturel et pédagogique de l'Institut de France à Shelley.